Bonjour et bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous de France Inter, du journal Le Monde et de France Info, émission exceptionnelle au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes, journée de violence et de chaos dans la capitale. Comment sortir de cette crise inédite? Comment le gouvernement compte-t-il répondre et à la colère et aux revendications d'un mouvement qui se durcit, mouvement toujours très largement soutenu par l'opinion? Nous attendons tous maintenant de savoir ce que va décider l'exécutif. Notre invité est le numéro 2 du gouvernement, le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. François de Rugy s'est installé au micro et devant les caméras de Questions politiques.
France Inter, Questions politiques, Ali Badou.
Bonjour François de Rugy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous jusqu'à 12h30. Vous devrez ensuite vous rendre à l'Élysée pour une réunion de crise convoquée par le président de la République, Emmanuel Macron, qui est arrivé à Paris ce matin. Il a quitté le G20 hier soir et l'Argentine. À mes côtés pour vous interroger, l'équipe de Questions politiques, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour Ali, bonjour
Françoise
à tous.
Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut à tous.
Première question, François de Rugy. Qu'avez-vous ressenti en voyant ces images d'émeutes hier à Paris?
C'est extrêmement grave. Moi, je suis d'abord en tant que citoyen, j'étais moi-même à Paris hier, très choqué par ce déchaînement de violence. Car c'est un déchaînement de violence. La colère n'excuse pas tout. Et bien sûr, il y a différentes catégories, en quelque sorte, de manifestants. Il y a des casseurs professionnels, sans doute, sûrement, qui viennent s'infiltrer dans les manifestations, comme ils le font dans d'autres manifestations. Avec peut-être la particularité que là, on a à peu près tous les casseurs professionnels de l'extrême droite, de l'extrême gauche ou d'ailleurs. Il y a, bien sûr, des manifestants pacifiques. Mais il y a aussi des manifestants qui veulent casser. Des manifestants qui ne sont pas des casseurs professionnels, mais qui se joignent à ces excès de violence, à ces attaques contre des policiers. On a vu ce CRS qui a été roué de coups par terre par un groupe de personnes qui se sont jetées sur lui. On a vu un immeuble incendié, un immeuble d'habitation. C'est absolument inadmissible.
Quelle doit être du coup la première réponse du gouvernement? Est-ce qu'elle est d'abord sécuritaire? Est-ce que l'on peut parler aujourd'hui de la nécessité de rétablir un état d'urgence?
Dans toutes les circonstances de ce type, l'aspiration des Français, des citoyens, c'est que l'État les protège. Et l'État doit assurer la sécurité et donc nous ferons tout. Tous les moyens de l'État seront mobilisés pour garantir la sécurité. Et moi, je le dis, en termes de sécurité, je l'ai toujours dit, il y a la prévention et la répression. La prévention, nous l'avons faite. Quand nous avons dit, les manifestations, elles s'organisent de telle ou telle façon et on va aller à tel ou tel endroit, on va faire du filtrage, etc. Et il y a la répression. Et il faut que ce soit clair. Les actes de violence, ils seront réprimés. Les responsables de violence, ils seront réprimés. Nous ferons tout pour les identifier et ensuite qu'ils soient condamnés.
Monsieur de Rugy, quand on voit les images d'hier avec un certain nombre de gilets jaunes autour de la tombe du soldat inconnu, on se dit quand même que est-ce que finalement ça a été anticipé correctement? Est-ce que finalement les forces de l'ordre n'ont pas été totalement débordées?
Les responsabilités de chacun, chacun doit les assumer. La première responsabilité par rapport à l'Arc de Triomphe, c'est ceux qui s'attaquent à l'Arc de Triomphe.
D'accord.
Ça n'était jamais arrivé. Jamais arrivé. Et là aussi, il faut que les uns et les autres soient clairs. Moi, je veux que les condamnations, elles soient pas de pure forme. Hein, les condamnations des responsables politiques. Les responsables politiques qui savent très bien ce que c'est qu'une manifestation. Monsieur Mélenchon, il en a fait beaucoup dans sa vie, des manifestations. Il a encouragé les Français à aller dans la rue. Et pas depuis simplement
Monsieur
hier.
Wauquiez
Madame
aussi.
Le Pen également. Monsieur Wauquiez qui est allé mettre un gilet jaune.
François Hollande.
Et à partir de ce moment-là, tous ceux qui ont encouragé à ces manifestations, ils doivent assumer leurs responsabilités, c'est-à-dire qu'ils doivent dire « ces manifestations doivent cesser ».
Mais ils vous renvoient à votre responsabilité.
Non, notre responsabilité, c'est évidemment d'assurer l'ordre et la sécurité.
Oui, mais ça, pas
mais
seulement. Vous pouvez faire responsabilité... un message répressif, alors que ce qu'on dit, c'est que vous n'arrivez pas à engager le dialogue parce que vous êtes trop ferme, vous n'entendez pas les revendications. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
D'abord, est-ce que les responsables politiques qui ont incité les gens à aller dans la rue, est-ce qu'ils appellent oui ou non ces manifestations à cesser? Ces manifestations de violence doivent cesser. Et vous le savez très bien, plus on envoie des gens dans la rue,
quand vous dites
plus
les manifestations,
il est difficile
la mobilisation
de séparer
des gilets jaunes doit
une manifestation, plus il est difficile de séparer dans une manifestation ceux qui veulent faire le maximum de violence, faire le maximum de casse, s'en prendre aux forces
pour
de l'ordre, s'en
bien,
prendre à des bâtiments publics ou privés.
Le mouvement des gilets jaunes doit cesser.
Le mouvement des gilets jaunes doit dire si oui ou non il veut poursuivre les manifestations. Et moi, je le dis, dans un cadre comme celui-là, autant des rassemblements pacifiques, des plateformes de revendication, des structurations de mouvements comme le mouvement des Gilets jaunes veut peut-être le faire, très bien. À ce moment-là, on peut dialoguer, ça permettra de trouver des solutions, ça permettra de sortir de cette situation, mais sans doute qu'il doit dire aussi, dans le même temps, les manifestations, mais pour l'instant,
on arrête. Est-ce que c'est pas à vous d'inviter les partis politiques? Est-ce que c'est pas à vous de tendre la main en leur disant, on va tous se voir? C'est une proposition de Marine Le Pen hier, de dire tous les partis politiques doivent être convoqués ou invités à l'Élysée, de manière à ce que les choses rentrent dans le cadre institutionnel. Est-ce que vous lancez un appel aux autres partis politiques, et est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron devrait tendre la main?
François de Rugy.
Jouer le jeu des institutions démocratiques? Oui, mille fois oui. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous ferons. Et toutes celles et tous ceux qui représentent une part du peuple français, en étant notamment élus à l'Assemblée nationale, au Sénat, élus locaux, évidemment qu'ils ont leur place dans tout dialogue. C'est déjà ce que nous avons commencé à faire avec le Premier ministre. Ce n'était qu'un début, ce n'était qu'un point de départ pour essayer de se mettre d'accord d'ailleurs sur une méthode. Et c'est ce que nous avons fait jeudi et vendredi en rencontrant avec le Premier ministre tous les acteurs,
alors, sauf
pas
que c'est
simplement
une méthode
les
qui
élus,
fonctionne pas.
Aussi les
on
syndicats.
On a vu le raté, on a vu le fiasco que ça avait été avec Édouard Philippe. Donc là, vu
non,
ce qui s'est
non,
passé...
Non, 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 attendez, Madame Bécart, sur les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont désigné 8 porte-parole mardi dernier. Mm-hmm. Ce n'est pas vieux. Mm-hmm. Cette semaine, mardi dernier, j'ai immédiatement dit, et le président de la République m'a dit, oui, reçois-les. Et donc, je les ai reçus le mardi soir.
Deux c'est vous qu'on avait fait la proposition.
Et ils m'ont dit, à ce moment-là, mm-hmm. les deux qui sont venus, ils m'ont dit, ce que nous voulons maintenant, c'est être reçus par le Premier ministre. Le Premier ministre dit... C'est bon, on le fait vendredi. À ce moment-là, entre eux, ils ne sont déjà plus d'accord s'il faut y aller, qui doit y aller, etc. Nous avons eu une discussion avec l'un d'entre eux qui était très intéressante sur le fond, qui a balayé énormément de sujets. Mais il n'a pas voulu qu'on dise qui il était, car il se sentait menacé. Et ça, c'était avant la manifestation de samedi.
Alors malgré
ça veut dire que ce climat de violence, il existe au sein du mouvement des Gilets jaunes. Mais... Je vois que des Gilets jaunes s'expriment dans le journal du dimanche en disant « Nous voulons être constructifs ». Très bien. Que celles et ceux qui veulent être constructifs, qui veulent dialoguer, sortent et coupent les liens avec ceux qui veulent la violence.
Mais malgré tout, avec ce qui s'est passé hier, vous parlez d'un climat insurrectionnel, si on vous entend bien. Il va falloir faire un geste,
certains,
un geste fort.
Certains
il va
veulent installer un climat insurrectionnel.
Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre sur la table aujourd'hui pour calmer la tension dans laquelle on est aujourd'hui?
François de Rugy.
Nous avons évidemment à travailler sur un certain nombre de réponses de fond, qui sont à la fois sur la question générale du pouvoir d'achat, sur la question des impôts et taxes, car
ça,
moi, tous
mots.
Ceux que j'ai entendus...
C'est des mots
c'est le niveau... non, non,
qu'est-ce
non.
qu'on met sur la table
non, non, non,
il
Madame
faut un
Bécart,
geste fort.
Le niveau des impôts et taxes, c'est pas des mots. Ou alors, c'est des mots et des chiffres. Parce que derrière, ce sont des réalités concrètes pour
il
les Français
concret, voilà.
et des réalités concrètes pour le budget de l'État, donc pour ensuite assurer les services publics. Y compris, vous savez que nous avons augmenté le nombre de policiers. Hein, déjà, ça a été le cas dans le précédent mandat. Nous continuons à recruter 10 000 policiers. Cela ne se paye pas avec de l'eau fraîche, de l'amour et de l'eau fraîche.
Excusez-moi,
cela
Monsieur
se paye avec un budget de l'État. Mais
excusez-moi,
on ne peut pas,
pour pas être dans les généralités, est-ce que vous êtes
François
prêt
Spassose.
À interrompre la hausse du prix de l'essence et du diesel qui est prévue le 1er janvier prochain? Au fond, c'est la principale revendication aujourd'hui.
Et je complète François de Rugy, la question de Françoise Fressoz. En lisant les échos vendredi matin, on lisait que le président de la République avait enlevé à la dernière minute de son discours de mardi le moratoire sur la hausse des taxes sur les carburants au 1er janvier. À la dernière minute, juste avant de parler devant les Français.
Ça, on peut là revenir tout de suite à la petite politique.
Ah non, c'est
en
pas
disant,
la petite politique, c'est en fait le geste concret.
Le moratoire sur la hausse des taxes le sur fond, le carburant, c'est quand même le cœur du sujet.
La priorité, c'est la sécurité. Et donc moi, je ne veux pas que... Vous voyez, comme on est passé déjà en à peine 10 minutes, on est passé du problème de la sécurité que l'on doit garantir aux Français.
Au
et donc tout le monde doit dire clairement où est la priorité.
Mais est-ce que la priorité, c'est de continuer... Est-ce que Christian Castaner est la bonne personne pour la sécurité, pour le coup? Parce
mais
que si on revient à la
sécurité...
Laissons
François de Rugy répondre.
Est-ce que la priorité, c'est de continuer à faire des manifestations dont on sait qu'elles vont déborder? On le sait. Parce que non seulement il y a des casseurs, mais en plus, il y a des gens. Écoutez, j'en ai vu passer hier devant mon ministère, boulevard Saint-Germain à Paris. On n'était pas aux Champs-Élysées. On n'était pas à Place de l'Étoile. Plusieurs centaines de personnes, la plupart, avaient des masques et des lunettes de ski pour se protéger, on le sait très bien, des gaz lacrymogènes. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà venus à Paris, venus avec cet équipement pour pouvoir aller à l'affrontement. Certains
mais
avaient des boucliers, d'autres avaient des casques.
On a vu les
on
images.
On ne peut pas accepter cela.
Mais on a vu
et
les
ces
images.
Personnes-là,
mais
elles doivent être arrêtées et condamnées.
Monsieur le ministre, vous avez un point commun à boulevard Saint-Germain et sur les Champs-Élysées. Ce sont des quartiers chics. Ce sont parmi les quartiers les plus riches de France et en tout cas de Paris.
C'est le quartier des ministères, Monsieur Badou. C'est pour ça que j'y suis, pour ma part.
Aussi, en l'occurrence, ce sont les quartiers où il y a les autorités, notamment des institutions comme les ministères. On s'est attaqué à des voitures, à des boutiques de luxe. On s'est attaqué à une préfecture, au Puy-en-Velay. Enfin, c'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de symboles qui ont été attaqués.
C'est extrêmement grave, Monsieur Wauquiez. A été longtemps élu de la Loire, du Puy-en-Velay. Il a été maire du Puy-en-Velay. J'espère que non seulement il a condamné fermement cet acte criminel, c'est criminel de mettre le feu à une préfecture, il y avait des gens qui étaient en réunion dedans. Et que dans le même temps, il a dit maintenant, ça suffit. Les manifestations de ce type, ça suffit.
Mais ce
c'est ça être responsable politique. Si M. Wauquiez était demain ministre, il l'a été par le passé. Qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait aux manifestants « Oh mais vous pouvez continuer, il n'y a pas de problème et on peut, on va discuter, on va dialoguer et en parallèle, on va avoir des manifestations violentes. » Il serait le premier à réclamer le retour de l'ordre et à que chacun y prenne sa part.
L'ordre, encore d'accord, une fois, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous êtes prêt à revenir sur l'idée d'une hausse au 1er janvier du prix de l'essence et du diesel calmer le jeu?
Mais nous avons déjà dit que il y avait un certain nombre de choix politiques que nous avions faits. Parmi ces choix politiques, il y a la baisse du coût du travail, il y a la lutte contre le dérèglement climatique et la baisse aussi des impôts comme la taxe d'habitation. Si je prends ces trois exemples, pourquoi je prends ces trois exemples? On pourrait, par exemple, annoncer demain matin une hausse du SMIC, très forte. Certains nous le demandent dans les oppositions. 200 euros par mois. En effet, beaucoup de gens seraient contents parce que c'est une réalité. Quand on est payé au SMIC, c'est difficile de boucler ses fins de mois. Ça veut dire que le coût du travail dans les entreprises est alourdi immédiatement. Ça veut dire que
moi,
tout un tas...
Je ne vous parle pas du SMIC.
Si, il y en a qui nous parlent du SMIC.
Ah, moi,
j'ai reçu des gilets jaunes. Ils sont venus avec deux pages de revendications et je les remercie d'ailleurs d'avoir mis par écrit leurs revendications et leurs propositions. Et parmi celles-ci, il y avait le SMIC. Et c'est normal. C'est normal. Vous savez que depuis 10 ans de crise économique, on se serre la ceinture.
Mais parce que c'est dans la, est-ce que c'est dans la discussion de dire il peut y avoir un moratoire?
Mais il y a, on est en train de tout regarder. Je l'ai déjà dit, le moratoire sur la taxe carbone. Un seul trimestre, puisque certains parlent de cela, 650 millions d'euros. Ces 650 millions d'euros, on finance comment? Est-ce que, par exemple, vous savez combien coûte la prime à la conversion pour mettre des vieilles voitures à la casse et aider des centaines de milliers d'automobilistes français à acheter une voiture plus récente qui consomme moins? Vous savez combien ça coûte? 650 millions d'euros.
Oh, pardon.
Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse, par exemple, cette mesure et que, de l'autre côté, on abandonne les mesures d'accompagnement? Je ne crois pas.
Est-ce que vous êtes en train de sacrifier cet inflexible? Quand on vous écoute, on entend toujours cette même inflexibilité.
Non.
On a le sentiment que les Français...
Madame Bécard, nous ne sommes pas inflexibles. Moi, je ne laisserai pas cette petite musique s'installer que certains nourrissent, d'ailleurs, de façon très politicienne, et c'est très désagréable, à l'égard notamment du Premier ministre. Moi, je le côtoie, j'allais dire, matin, midi et soir, depuis des semaines, et je vois justement qu'il tient bon dans cette période.
Mais
et
il est
c'est
pas
important
un peu droit dans ses bonnes...
d'avoir des dirigeants politiques, des hommes d'État, comme Emmanuel Macron ou comme Édouard Philippe, sur Monsieur... qui on peut s'appuyer et sur lequel on peut compter. Monsieur... Donc ça, c'est une remarque sur la forme, et j'y tiens parce que je vois et je lis un certain nombre de choses qui sont fort malvenues dans une période comme celle-ci. Monsieur... Mais par ailleurs, sur le fond, vous savez que nous avons déjà doublé la prime à la conversion pour les plus gros rouleurs. C'était une demande. Nous avons également décidé d'élargir le chèque énergie. C'est une mesure de pouvoir d'achat. De pouvoir d'achat. Concrète, on ne l'a pas lié au niveau des prix du pétrole. Aujourd'hui, les prix du pétrole ont rebaissé. Notre mesure, évidemment, qu'elle se déploiera dès le début de l'année 2019. On passe de 3,6 millions de Français à près de 6 millions. Et on augmente en moyenne de 50 euros par bénéficiaire du chèque énergie.
Mais sur quoi vous êtes-vous planté? Pour reprendre les mots de Christophe Castaner, en l'occurrence, hier soir à la télévision, parce qu'il y a manifestement des choses qui ne sont pas...
je vous réponds avant que vous passiez la parole à une de vos consoeurs. Monsieur Badou, vous savez, le moment n'est pas venu de se retourner sur les 18 mois. On pourra le faire. Moi, je suis prêt à le faire.
C'est ce qu'a fait Christophe Castaner hier. Il a commencé
au gouvernement il y a 18 mois, mais j'assume ce qui a été fait. J'assume. Mais évidemment qu'il faudra le faire. En revanche, nous sommes dans une période de tension forte, de tension sociale. C'est un mouvement social d'un type nouveau, inédit, qui est né sur Facebook, sur Twitter. Ça devait arriver d'ailleurs, c'est normal, puisque c'est aujourd'hui un lieu de discussion et de mobilisation entre Français, où se côtoient d'ailleurs le pire et le meilleur. Mais pour autant, eh bien, il faut faire avec, et il faut maintenant se concentrer sur le retour à l'ordre public sur les endroits, chaque fois qu'il y a des tentatives ou des tentations de manifestations violentes. Et puis par ailleurs, bien sûr, sur les mesures. Mais les mesures, elles seront sociales. elles seront fiscales, elles seront aussi démocratiques, politiques. Parce que moi, dans tous les gilets jaunes que j'ai rencontrés, j'ai entendu référendum, j'ai entendu droit des citoyens à s'exprimer et à être entendus.
Ce que vous-même plaidiez, d'ailleurs.
Ce que moi, j'ai souvent plaidé. Et je n'ai pas la prétention de dire « Ah, je l'avais bien dit, ça sert à rien, ça ». Mais en revanche, oui, j'ai fait par le passé des propositions, car je sais que cette aspiration de beaucoup de Français à être plus entendus, ce sentiment de coupure profonde
Emmanuel
entre
Macron lui-même
les dirigeants
quand il
politiques
était candidat,
et les citoyens français
est fort.
Il a vite
oublié l'idée quand il est devenu président de la République. Juste, Nathalie Sacré-Cœur.
Monsieur de Rugy, est-ce que répéter sans arrêt « garder le cap, garder le cap,
non,
garder
non,
le cap »
Non, moi je ne dis pas cela, non, si vous m'avez entendu.
Je ne parle pas que de vous,
je parle de l'expression.
Est-ce que finalement, le propre d'un grand chef, ce n'est pas de savoir de temps en temps ou reculer, comme disait Françoise, et non pas reculer, mais faire un moratoire. Le général de Gaulle l'a fait en 63 avec les mineurs. François Mitterrand l'a fait. Tous les chefs d'État l'ont fait à un moment donné de leur exercice. Est-ce que finalement, ça ne serait pas assez sage de le faire quand il en est encore temps pour pas que les choses finissent mal?
François de Rugy.
Ce n'est pas une intelligence, une forme d'intelligence politique.
Bien sûr, mais comme vous le dites, tous les chefs d'État ont été confrontés à des mouvements sociaux ou à tout simplement des événements totalement imprévisibles. Souvenez-vous, Nicolas Sarkozy, la crise de 2008. Évidemment que dans son programme politique, il n'avait pas intégré des réponses à la crise, puisque la crise, personne ne l'avait vu venir. François Hollande, avec les attentats en 2015, c'est pareil. Ça oblige, évidemment, à réévaluer les priorités. Et donc, évidemment,
à faire des gestes pour montrer qu'on a entendu la souffrance du pays.
Évidemment que notre gouvernement et le président de la République, avec qui, évidemment, j'échange aussi très, très fréquemment, est parfaitement conscient de cela. Vous savez, Emmanuel Macron est tout sauf quelqu'un de buté, de fermé ou de borné. C'est quelqu'un qui a toujours été ouvert, non seulement à la discussion, mais à des idées nouvelles et qui, par ailleurs, est capable de
bouger. Il faut remanier le gouvernement ?
Non, mais attendez, là, monsieur Badou, alors c'est pareil, là, on revient encore à la politique politicienne.
Dissoudre donc l'Assemblée ?
Oui, bah voilà, et puis alors je...
Non, mais parce que c'est des demandes qu'on a entendues, François de Rugy, en l'occurrence, ça vous paraît absurde.
C'est sûr que ça va améliorer le pouvoir d'achat des Français.
Par le passé.
C'est sûr que ça va améliorer le pouvoir d'achat des Français.
Non, mais il n'y a pas que le problème de pouvoir d'achat, pardonnez-moi de vous couper.
Ah bah, c'est quand même un problème lourd.
Il y a un problème
lourd
aussi dans ce qu'on entend. Et ça, il faut l'entendre. Quand on parle avec les Gilets jaunes, il y a un rejet de la personnalité d'Emmanuel Macron et il y a un rejet de sa politique. Comment est-ce qu'on continue à avancer quand des mots ont été prononcés, ont blessé des gens et quand la politique qui est menée paraît injuste?
Ça
paraît compliqué de continuer à avancer quand même.
Moi, j'ai discuté, je ne sais pas si vous avez discuté avec des gilets jaunes, mais pas simplement sur des plateaux de télévision ou de radio, mais en prenant le temps de discuter et de tout entendre. Mais moi, j'ai entendu beaucoup de personnes qui sont impliquées, mobilisées dans ce mouvement des gilets jaunes dire « on sait bien que les problèmes, ils ne datent pas de l'élection d'Emmanuel Macron. »
La personnalité d'Emmanuel Macron, malgré tout,
d'ailleurs que l'élection d'Emmanuel
question,
Macron, évidemment, a soulevé un espoir de changement, un espoir de solution. Par ailleurs, il faut se dire les choses d'un point de vue social. Et moi, je connais cela depuis longtemps, étant élu de terrain à Nantes, avec des habitants de toutes conditions qui sont aussi des électeurs de ma circonscription. Eh bien, depuis 10 ans, ça fait 10 ans que la crise financière s'est déclenchée.
Oui.
On se serre la ceinture. Depuis 10 ans, sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande, on a augmenté fortement les impôts. Franchement, François Hollande, qui aujourd'hui va faire ami-ami avec des gilets
fiscal,
jaunes, il oublie de leur dire,
c'est
il oublie de leur dire la pression fiscale qui a été imposée.
Ça a été inventé en 2013.
En 2010-2011.
Mais il y a des mots blessés, là, de la
part
d'Emmanuel Macron.
Les Comment Français, qui, soit qu'ils soient impliqués dans le mouvement des gilets jaunes, soit qu'ils en soient tout simplement solidaires, ce que je vois bien. Je ne conteste pas les sondages. Vous savez, les hommes politiques qui passent leur temps à dire qu'ils ne regardent jamais les sondages ou qu'ils les contestent. Moi, je vois bien que les Français sont solidaires globalement de ce mouvement. Je ne crois pas qu'ils soient solidaires de la casse. Je ne crois pas qu'ils soient solidaires de la radicalisation. Ils ne sont pas solidaires de la violence. Ça, j'en suis convaincu. Mais évidemment que sur l'aspiration sociale à mieux vivre de son travail, c'est quelque chose que nous avons toujours dit,
c'est
d'ailleurs,
pas ma
avec
question.
Emmanuel
ma
Macron.
Ma question, c'est le rejet de sa personnalité et le rejet de sa politique. Le rejet
non,
de sa politique,
je crois
de sa
que
personnalité.
Là,
il y a eu des mots prononcés qu'on blessait.
Mais sur la façon, il y a toujours, vous le savez, la façon d'être, la façon de faire et ce que l'on fait. Ce qui compte le plus, c'est ce que l'on fait. Parce que les résultats, vous savez, dans trois ans, on sera à quelques mois de l'élection présidentielle ou des élections législatives de 2022. Ce qu'on regardera, c'est les résultats. Et vous savez bien que si jamais on disait maintenant, bon ben, ce que nous avons engagé depuis 18 mois, on arrête tout. La trajectoire sur la taxe carbone, on arrête.
Non,
la baisse
non,
du coût du travail, on arrête. La baisse des impôts, on arrête. L'équilibrage des finances publiques, on arrête. Vous croyez que la France serait dans un meilleur état dans 3 ans? Et les Français sauraient nous le rappeler à ce moment-là.
Monsieur le ministre.
Ils feraient peut-être pas des manifestations, mais ils le diraient par leur vote et ils auraient bien raison.
Monsieur le ministre, juste une question d'actualité. Est-ce que la réponse aujourd'hui ou demain peut être simplement l'instauration de l'état d'urgence? On a entendu ce matin Benjamin Griveaux, c'est-à-dire une réponse sécuritaire, comme vous dites. Est-ce que ça peut être la seule réponse qui émane de l'exécutif? Est-ce qu'il faut faire un geste à côté?
Il y a, encore une fois...
Est-ce que vous y êtes favorable?
Il y a différents ordres de priorité. Moi, je ne m'exprime pas à la place du ministre de l'Intérieur sur une question comme celle de l'état d'urgence. Ça, vous l'imaginez bien. Là, il faut quand même que on travaille les choses sérieusement avant de faire des déclarations tonitruantes. Moi, ce que je sais, c'est que nous travaillons ensemble, évidemment, à différents sujets, sur différents sujets, pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Et je crois que les Français souhaitent toutes et tous, à la fois qu'il y ait l'ordre, la sécurité, la paix civile. La paix civile, c'est pas des mots en l'air, c'est le fait qu'on puisse sortir, faire ses courses de Noël sans tomber sur des casseurs. Vous avez vu ce qui s'est passé hier dans Paris, hein, parce que qu'on ne me dise pas que c'est que les symboles du pouvoir qui ont été attaqués.
Mais je sais quand vous attaquez une pharmacie,
une brasserie où il y avait des gens qui regardaient les manèges de Noël dans les vitrines des grands magasins. Vous savez, moi, je l'ai fait avec mes enfants et j'espère bien pouvoir le faire d'ici Noël. Quand on va devant les grands magasins, c'est même pas forcément pour aller dedans pour acheter des choses. C'est pour
profiter de moments tranquilles. On comprend que vous vouliez discréditer le mouvement, mais il reste extrêmement populaire.
Je ne veux pas discréditer le mouvement. Je veux que chacun prenne ses responsabilités. Et quand on appelle à des manifestations, que l'on soit gilet jaune ou que l'on soit responsable politique, et quand on est responsable politique, on a une responsabilité supplémentaire. Surtout quand on aspire à exercer les responsabilités de l'État.
Alors,
et quand on est par ailleurs aussi des syndicats, et je salue d'ailleurs l'esprit de responsabilité. Si dans ce contexte, il y a des gens qui ont fait preuve d'esprit de responsabilité, ce sont les syndicats de salariés ou patronaux. Et croyez-moi, nous avons discuté avec eux, avec le Premier ministre, ils pourraient être tentés de rejoindre le mouvement. Mais ils disent attention, sinon il y a de grands risques de débordement et de violence comme nous l'avons
vous
vu hier.
Vous allez nous quitter pour aller à une réunion à l'Élysée en tant que ministre d'État, ministre de la Transition écologique. Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'il sorte de cette réunion? Les Français sont en attente. D'un message, d'un geste. Est-ce que c'est la sécurité d'abord ou est-ce que c'est la sécurité et tout un calendrier pour essayer de rétablir le dialogue?
C'est bien sûr la sécurité d'abord. Ça, c'est évident. C'est la priorité absolue. D'ailleurs, le président de la République s'est rendu sur la place de l'Étoile, sous l'Arc de Triomphe, sur la tombe du soldat inconnu. Il y a le 11 novembre. Il y a quelques semaines, nous étions rassemblés là et tout le monde considérait qu'en effet, la mémoire, 100 ans après de la fin de la Première Guerre mondiale, et cette mémoire, on la laisserait être souillée, être piétinée au sens propre du terme, être saccagée par des tags, et pas simplement des tags d'anarchistes d'extrême-gauche ou d'extrême-droite. Il y en avait, mais pas uniquement. Et donc ça, c'est en effet quelque chose que nous devons faire immédiatement.
Et pour le reste.
Et ensuite, nous travaillons, vous savez, nous ne sommes pas, je l'ai dit, et nous ne resterons pas sourds et muets, la semaine prochaine et dans les jours qui viennent.
Mais il faut aller vite pour éviter une nouvelle manifestation. Vous êtes quand même obligé d'annoncer des mesures concrètes très vite.
Nous sommes parfaitement conscients de la gravité de la situation et du niveau de mécontentement.
Et qu'il ne pourrait pas y avoir un troisième samedi.
Bien sûr.
Gérard Larcher vient de dire, sur une antenne concurrente, qu'on ne pourrait pas se permettre d'avoir un troisième samedi noir.
Un quatrième.
Oui, alors,
François Lerugy.
Je ne parle pas de Gérard Larcher, mais là je parle d'un certain nombre de sénateurs de sa majorité, qui ont, moi je peux le dire, j'ai été témoin dans les débats au Sénat, jeté de l'huile sur le feu, ont appelé les gens à manifester avec des gilets jaunes, etc. Franchement, c'est pas très responsable. Et surtout, vous avez vu ce que c'est, l'une des principales revendications en matière démocratique du mouvement des gilets jaunes, c'est la suppression du Sénat. Ils veulent faire un référendum. Vous imaginez si demain on disait, une réponse démagogique, une réponse immédiate, on fait un référendum sur la suppression du Sénat. Voyez, bon, ce serait pas responsable, hein, parce que moi je pense que dans la durée, oui, c'est bien en France d'avoir un Sénat et une Assemblée nationale. Donc on ne cède pas non plus à l'immédiateté, à la dictature de l'immédiateté ou à la démagogie. Vous voyez, sur ces sujets-là, comme sur le pouvoir d'achat, comme sur la fiscalité, moi je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on baisse les impôts. Qu'on baisse les impôts et taxes qui sont trop élevés en France. Mais est-ce que vous croyez qu'on peut le faire comme ça, en claquant des doigts, sans avoir la responsabilité de regarder ce que cela aura comme conséquence, non seulement dans 3 mois, mais surtout dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, sur le budget de la France.
Mais est-ce que c'est pas ce discours de raison qu'en fait les
qui est difficile,
la France ne
qui
veut
est difficile
plus entendre.
À entendre. Oui, mais je le comprends bien parce que 10 ans de sacrifice à cause de la crise, ça rend ces sujets-là difficiles à entendre. Mais vous voyez bien qu'on peut pas d'un côté demander la baisse des impôts et taxes généralisées et la hausse des investissements ou dans les services publics. Par exemple.
Merci François Lerugy, on vous
Merci
laisse
vous.
Rejoindre l'Élysée pour la réunion de crise qu'a convoqué le président de la République. Merci infiniment d'avoir été l'invité de Questions politiques et vous partirez cet après-midi pour la Pologne et la COP 24. Questions politiques continue.
France Inter, Ali Badou. Question politique.
Émission exceptionnelle aujourd'hui avec une deuxième partie d'émission en compagnie de la secrétaire d'État à l'écologie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Brune Poirson. Bonjour.
Bonjour Ali Batou.
Et merci d'être notre invité jusqu'à 13h. Il y a évidemment les questions d'urgence, l'urgence sécuritaire dont on vient de parler avec François de Rugy. Et puis il y a aussi des questions de fond dont vous avez directement la charge et la responsabilité à la veille de la COP24 qui doit ouvrir ses portes en Pologne, avec des questions qui interrogent directement la question de la transition écologique. J'aimerais juste qu'on se souvienne de ce que disait Nicolas Hulot. C'était à l'émission politique sur France 2. Nathalie Saint-Cricq s'en souvient.
Je me serais bien passé, et la France se serait bien passée, de cette confrontation qui effectivement oppose l'écologie au social. Alors que ma volonté à moi, c'était effectivement de réconcilier l'écologie et le social. Et on n'y est pas parvenu. Et cette crise était évitable. Et personne ne pourra me démentir que je me suis battu, et notamment les semaines qui ont précédé mon départ, pour qu'on change complètement d'échelle dans l'accompagnement social de la transition énergétique et écologique, avec des propositions concrètes. Je n'ai pas été entendu. On m'a opposé des raisons budgétaires. J'en ai tiré des leçons.
Brune Poirson, c'est... Terrible d'entendre ces mots de Nicolas Hulot qui datent d'il y a une quinzaine de jours. Est-ce que c'est pas dramatique au fond que ce mouvement des Gilets jaunes soit né d'une question qui est très directement liée à celle de la transition écologique ?
Les mots de Nicolas Hulot, là, c'est un constat. C'est un constat qui dit qu'on n'a pas toutes les réponses à la transition écologique. Et qu'effectivement, toute la difficulté, c'est de construire un monde nouveau. Un monde qui réponde aux aspirations des Français de vivre en harmonie avec leur nature, parce que c'est ça dont il s'agit. C'est que l'homme retrouve une place dans la nature. Et ça, ça a des conséquences sociales très profondes. Et nous n'avons pas toutes les réponses. Et je crois que c'est essentiel
pourquoi
de le dire. Et je crois,
que...
et moi j'appelle Nicolas Hulot, à, qui, il est vrai, a fait beaucoup de constats, notamment lorsqu'il était au gouvernement, qui a proposé certaines choses aussi. Mais
il
là, j'en appelle à
alerté.
Continuer à nous proposer des choses, des voies, des chemins,
oui, mais
des réponses concrètes.
Est-ce que c'est pas à chaque fois que Hulot proposait quelque chose, Bercy disait non, on n'a pas l'argent, on peut pas le faire, on est en déficit. Comment est-ce que vous réglez concrètement ce problème-là ?
Eh bien, vous voyez, là, je crois qu'on est exactement au point de la difficulté de la transition écologique. C'est qu'on est en ce moment à un moment d'histoire, parce qu'on est entre deux mondes. Et oui, je vous mentirais si je vous disais pas qu'il y avait toute une partie de l'administration française. Attention, je ne parle pas des fonctionnaires qui font un travail absolument remarquable, avec d'une grande compétence. Mais oui, nous avons toute une partie du système qui est bloquée quelque part dans l'ancien monde, qui est bloquée dans un monde où on pouvait comme ça dépenser de l'argent ou même tolérer que beaucoup d'argent, y compris public comme privé, soit investi dans des projets qui sont profondément mauvais pour la planète. Et donc aujourd'hui, on est à ce point de frottement. On est à ce frottement-là dans les institutions, entre responsables politiques et entre Français. Et c'est ça la grande difficulté, et c'est ça le moment qu'on vit. Et maintenant, l'enjeu, c'est d'arriver à faire quelque chose que peut-être jamais on a fait dans l'histoire de France, c'est à dépasser ça pour collectivement trouver des solutions.
Nathalie Saint-Cricq.
Et ça a l'air peut-être un peu utopique, ce que je vous dis, mais c'est la seule façon d'aller de l'avant.
Alors, on a entendu Nicolas Hulot dire en gros qu'il l'avait bien dit, qu'il avait bien alerté tout le monde. Vous avez vécu cette période comme lui et avec lui. Est-ce que vous l'avez vu venir ou est-ce que Nicolas Hulot se donne le beau rôle en disant qu'en gros, il a alerté tout le monde? Alors finalement, c'est un mouvement spontané que vous êtes tous pris en pleine figure.
Brune Poirson.
Vous savez comme moi que La République En Marche est un parti qui ne date pas de la Deuxième Guerre mondiale, ou en tout cas qui n'a pas des années et des années. Mais sur quoi est-ce qu'on a créé La République En Marche ? Sur une campagne d'écoute. On est allé et on a fait le tour de la France pendant des semaines pour écouter les Français. Toutes ces angoisses-là, mais on les sentait. On les sentait au quotidien. C'est pour ça qu'après, on nous a beaucoup accusés sur les plateaux télé de répéter des éléments de langage en disant « Vous voulez réformer, aller toujours plus vite et encore plus vite. »
Donc
et
vous n'avez
c'est
pas
comme
été
ça.
Surpris par le mouvement des Gilets jaunes ?
Non, j'ai pas été surprise. En revanche, il y a une chose qui m'a surprise, qui me scandalise, qui me choque et qui est inadmissible, ce sont les violences. Les violences, on les a vues à Paris, et moi je viens du Vaucluse, et le préfet du Vaucluse, par exemple, a été menacé, sa famille a été mise en danger. Et là, ça c'est intolérable. Mais ça, ça traduit et je ne vais pas tomber dans l'accusation facile. Encore une fois, je le condamne. Mais un, je ne ferai pas d'amalgame. Et deuxièmement, ce que ça veut dire beaucoup plus profondément, c'est que nous sommes dans une crise de sens. Et qu'il y a une réponse sécuritaire à court terme. Il y a des réponses politiques à apporter à court terme. Et notamment déjà, et j'en appelle aussi à la responsabilité de personnes, comme Marine Le Pen, dont je viens de voir le tweet avant de rentrer, qui rentre maintenant dans une sorte de théorie du complot, ça c'est inadmissible. Mais il y a aussi une réponse à long terme profondément difficile, et j'espère que collectivement on en sera capable, c'est de dessiner le monde de demain vers lequel on doit aller. Et la grande difficulté, c'est que pour les responsables politiques, comme nous qui sommes aux responsabilités, une partie de ça, ça passe par dire « je n'ai pas les réponses ». Oui, il y a des choses potentiellement que nous ignorons, parce que nous ne savons pas ce que ça veut dire de vivre dans un monde où, qui peut être potentiellement 3 degrés plus élevé.
C'est pas le truc le plus difficile. Donner un petit coup de...
Vous savez, il y a potentiellement plein d'autres mesures, et vous avez vu les revendications des Gilets jaunes. Certaines sont justes et légitimes. Mais une des façons, oui, on l'a vu venir. Une des façons d'y répondre, elle est double. Elle est on a vu venir.
Et alors pourquoi ne pas avoir anticipé et comment vous êtes-vous laissé déborder en ce cas ?
On a vu venir des mouvements et on savait que quand vous réformez en profondeur un pays, forcément, vous déséquilibrez des systèmes et ça crée des frottements qui peuvent être très durs. Et bien sûr, ceux d'hier, ils sont condamnables et ça, non, c'était pas nécessairement prévisible. Mais il est certain qu'il y a une réponse politique à court terme et un travail politique à beaucoup plus long terme.
Brune Poirson, vous voulez absolument nous faire entrer donc dans un nouveau monde, c'est nécessaire, on l'entend bien. Le problème, c'est que cette transition écologique, devenir écolo, être un citoyen écolo, ça coûte très cher. On l'entend bien avec toutes les mesures que vous êtes en train d'égrener avec le gouvernement. Donc comment on fait pour aider les gens à entrer dans ce nouveau monde ? Il faut du sonnant et du trébuchant, il faut sans doute créer peut-être des fonds pour véritablement aider les gens à devenir écolo, parce que ça coûte des sous.
Brune Poirson.
Vous avez totalement raison. Totalement raison. Là, peut-être pour prendre vraiment beaucoup de hauteur, mais ça concerne aussi la France. La transition écologique dans le monde, ça nécessite 32 000 milliards de dollars.
De dollars.
C'est pas le contribuable qui va payer. Et ce n'est pas au contribuable de payer. Aujourd'hui, en parallèle, et vous avez, regardez, vous avez vu peut-être comme moi le rapport d'Oxfam, l'ONG Oxfam, qui dit et qui montre qu'il y a encore des banques qui investissent de façon beaucoup plus massive dans les énergies, dans les énergies polluantes.
6 grandes banques françaises qui investissent dans les énergies fossiles.
Eh bien, ça,
ça doit être quoi ? Interdit ?
Ça, c'est honteux. Et on est en train activement...
Oui, mais il suffit pas de le dire. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement ?
Je vais vous répondre, puisqu'on y travaille plus que concrètement. Je voudrais juste finir là-dessus. Ça, c'est honteux. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est moralement répréhensible. Et il est temps aussi de remettre des valeurs, de la morale dans ce système capitaliste qui est totalement à bout de souffle. Et ce que font certaines banques et leurs décisions d'investissement, elles sont rationnelles à court terme parce que ça consiste à faire de l'argent. Elles ont des actionnaires, etc. Je sais que c'est compliqué. Mais nous ne pouvons plus l'accepter. Et une part de la colère des Gilets jaunes, elle est là-dedans. Et nous nous attachons depuis le début à y répondre. Quand le président de la République, quand Donald Trump décide en juin 2017 de quitter l'accord de Paris, cette décision dramatique. Quand il prend cette décision, immédiatement Emmanuel Macron sort et fait un appel à la planète en disant « Make our planet great again ». Ce n'est pas de la com. C'est important, je voudrais finir. Et ça, quand il dit « Make our planet great again », c'est pas de la com. Et il dit « Tous ceux qui veulent agir et s'engager plus ».
Il l'a dit en anglais et c'est peut-être pour ça que les Français ne l'ont pas compris, en l'occurrence ceux qui sont sortis dans la rue Brune Poirson. D'un mot sur les gilets jaunes, est-ce que c'est pas une mobilisation contre l'écologie ?
La France n'est pas un îlot isolé dans le monde entier.
Non.
Et une part de la responsabilité de la France, elle est aussi d'agir à l'étranger. Et qu'a fait le président Emmanuel Macron dans le cadre, par exemple, du One Planet Summit, puisque j'ai pas le temps de l'expliquer, je le ferai quand même.
S'il vous plaît, Brune Poirson.
Oui. Mais ça vous avez pas remarqué qu'il y a une chose, et c'est un état de fait, c'est que l'argent, il voyage dans le monde entier. Il faut aussi parfois parler son langage pour pouvoir mieux la contraindre. Et donc, quand le président de la République a dit...
Là, il s'agit de parler aux gilets jaunes. Il s'agit de parler à ceux qui sont dans la rue.
Je suis en train de répondre aux gilets jaunes. Quand le président de la République, il dit Make our planet great again.
Mais c'est pas la peine de m'engueuler, moi. Hein.
Pardon.
Moi, je n'ai rien fait jusqu'à présent.
Vous savez très bien que je suis pas en train de vous engueuler, Ali Badou. Vous savez très bien.
Vous aviez l'air sévère quand même, hein. Moi qui suis pas loin.
Mais oui, parce que je pense que c'est important. J'aimerais juste finir ce que je suis en train de vous dire.
Mais allez-y.
Quand le président de la République dit que make our planet great again, l'objectif. Donc en gros, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de rendre l'accord de Paris irréversible. Pourquoi? Mais l'accord de Paris, on n'est pas attaché. Je sais que ça peut vous paraître un peu loin sur le coup.
Mais oui, parce que les émissions carbone en France continuent d'augmenter. Donc on a l'impression qu'il y a une telle différence entre le langage officiel et ce qui est vraiment fait qu'on se met à douter en disant « mais on y arrivera pas ».
Laissez-moi vous expliquer ce qu'on est en train de faire. L'objectif de l'accord à Paris, c'est de le rendre irréversible. Et quand je vous parle de l'accord de Paris, je vous parle aussi de la vie quotidienne des Français. Pourquoi ? Parce que les émissions chinoises, ce sont aussi les émissions des Français. C'est une réalité. C'est une réalité. Et que quand la planète, elle se réchauffe et qu'elle sera à 3 degrés, qu'est-ce que ça donnera ? Ça donnera dans le Vaucluse encore des sécheresses plus terribles. Ça donnera d'autres épisodes comme il y a eu dans l'Aude.
Et donc, comment concilier les fins de mois et la fin du monde ? On va reprendre les mots de Nicolas Hulot, mais cette contradiction-là...
Je suis en train de vous répondre en trouvant et en faisant en sorte de faire en sorte que les financements privés ils soient redirigés de façon absolument massive vers des projets qui sont bons
pour
la planète.
Mais on ne peut pas compter que sur moralité des banquiers. Moi, je parle de créer un fonds. Oui. Jean Jouzel, par exemple, propose la création d'un fonds au niveau européen.
Ça ne suffit pas de créer un fonds. Il faut aller plus loin. C'est l'ensemble du système financier qui doit se mettre au service de la planète. Il s'agit d'une question de survie de l'humanité. Il s'agit aussi de trouver des solutions très concrètes. Quand le président de la République dit « le chèque énergie, ça fonctionne mal, il y a 15% des Français qui ne l'ouvrent pas », quand on dit « il faut investir de façon massive dans les voitures électriques, etc. » Mais c'est pas uniquement le contribuable qui va le faire. C'est aussi aux banques de prendre leurs responsabilités. C'est aussi aux banques de prendre ces décisions-là. Et donc, aussi bien à New York, à l'occasion du One Planet Summit, et oui, je parle anglais, mais oui, le monde de la finance est profondément anglo-saxon aussi, eh bien, le président de la République a exigé, et nous le suivrons, et nous avons mis des mesures en place, que 30 à 40% minimum dans les années à venir des investissements privés soient redirigés vers des projets qui sont bons pour la planète. La France va prendre la tête du G7. C'est là-dessus qu'on va travailler. Pour la première fois de la vie, pour la première fois pardon, de l'histoire, il va y avoir des ministres des Finances et des ministres de l'Environnement qui vont être assis à la même table pour trouver des solutions concrètes. Parce qu'il est temps, que les banques prennent leur part de responsabilité. Et pas que les banques, les entreprises privées, elles le font déjà beaucoup puisqu'elles proposent des solutions.
Mais comment les contraindre ? Comment les contraindre ?
Par exemple, en les forçant à faire la transparence sur le risque climatique. Ça, c'est l'article 173, par exemple, de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. La France l'a promue en France,
ça veut dire
au niveau européen et plus largement. Ce que ça veut dire, c'est que le risque, c'est le langage de la finance. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte non seulement l'exposition au risque financier, mais l'exposition au risque climatique. Exemple, par exemple, dans ce cadre-là...
Je vous écoute, je ne comprends pas, et je me dis que les yellow vests et les yellow jackets non plus. Très sincèrement, Bruno Poisson.
C'est très simple, on est en train de travailler à réformer le capitalisme. Je sais que ça peut paraître un petit peu large, on peut en parler plus en détail, mais c'est ça l'objectif. Parce que oui, le système dans lequel nous vivons est devenu absurde. Oui, nous touchons aux limites du système capitaliste. Et une part de la colère qui est là, c'est que ça s'est senti, et ça s'exprime dans la colère des Gilets jaunes. Et ils ont raison,
oui,
ils là-dessus.
Alors, est-ce que vous avez
Nathalie
pas
Saint-Cric,
la...
François
ne
François
redoutez pas, quand vous donnez des ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que ce soit un peu stratosphérique, en clair, même si c'est un but que tout le monde a envie de...
Ou c'est un appel à la révolution, en l'occurrence.
Et par ailleurs, quand
mais
Ségolène Royal...
Mais il faut radicalement changer le système,
oui,
bien sûr.
Mais le capitalisme produit ses propres fossoyeurs. En fait, c'est vrai que vous avez une vision marxiste...
Marxiste de la...
De ce qu'il faut faire. Vous appelez à une révolution communiste.
J'appelle pas à une révolution, j'appelle à un changement profond du système, et c'est ce que nous avons commencé à faire. C'est ce que nous faisons, et c'est pour ça, par exemple, on parlait de la COP24, c'est pour ça que la France est si impliquée au niveau international. C'est parce que nous estimons qu'il est de notre responsabilité. Moi, je vous mets au défi de trouver un seul président de la République qui a eu des mots aussi forts vis-à-vis de la finance. Bon. Même Mélenchon n'aurait pas osé.
Alors, attendez, juste une chose. Les Gilets jaunes disent respectent l'écologie hein, pour un certain nombre. Est-ce que vous n'avez pas peur, comme le dirait Ségolène Royal, que vous montriez une écologie punitive ? Et si on veut progresser, si la France veut progresser, ne doit-elle pas avoir les Français avec elle ? Donc éventuellement, faire une pause de temps en temps et essayer de mieux expliquer. Voire de lâcher du lest. C'est toujours la même chose.
Notre programme écologiste, c'est pas un programme de taxes.
Hein. Il
y a une des mesures qui, c'est vrai, en ce moment... peut-être à raison qu'on mobilise beaucoup, mais on le sait depuis 10 ans, et
oui,
je le rappelle.
De même que la taxe poids lourd avait mobilisé, qu'on ne peut pas la mettre en place. Ça veut dire que le principe pollueur-payeur, il ne marche plus du tout.
Nous ne nous sommes pas levés un matin en nous disant « Tiens, on va taxer les Français, c'est ça notre politique écologiste ». Pas du tout. Moi, je voudrais quand même rappeler que Laurent Wauquiez, par exemple, il a fait partie d'un gouvernement qui a fait voter la taxe carbone.
Oui, mais c'est vous qui assumez aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est que les Français ne veulent plus payer. Ils en ont ras-le-bol des taxes. Donc, comment vous faites? Comment vous essayez de convertir les Français à l'écologie avec un ras-le-bol fiscal de cette nature?
Il y a plusieurs pistes. On sait que la taxe et le carbone, c'est, et on le sait depuis des années et des années, on sait que c'est la meilleure des solutions pour éliminer et pour changer, on parlait de changer des systèmes. Eh bien oui, là, il s'agit
sauf
d'éliminer...
Sauf que quand ça donne un mouvement comme celui des Gilets jaunes,
comment y répondre? Le mouvement des Gilets jaunes est plus large que ça.
Non, mais il est parti de ça.
Ça a été l'étincelle, c'est vrai. Oui. Ça a été l'étincelle, et il est plus large que ça. Et en matière de transition écologique, on va beaucoup plus loin. Regardez, par exemple, on travaille, et on ne fait pas que taxer. On travaille, par exemple, sur l'économie circulaire, qui vise à faire en sorte, et on a des mesures très concrètes qui ont été présentées par le Premier ministre lui-même. Jamais en France...
Vous dites, à un moment, il faut peut-être remettre en cause le principe de cette taxation de carbone, parce que on n'y arrive pas, et à chaque fois, c'est une jacquerie. On l'a vu avec les bonnets rouges, on l'a vu avec les gilets jaunes. Les Français ne supportent plus d'être taxés comme ils le sont. Quelle est la réponse?
Il y a un travail, il est certain qu'il y a un travail qui est nécessaire et qui est important. C'est le travail de sens. Je crois qu'on parle de transition. On dit qu'on en est au point A aujourd'hui. C'est le point A. Et il faut qu'on aille au point B. Mais il faut qu'on y aille collectivement. Et une des difficultés, et ce n'est pas propre qu'à nous, qu'à ce gouvernement-là, c'est comme ça dans le monde entier, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Donald Trump a été élu, c'est qu'on a du mal à dessiner le point d'arrivée. On a du mal à savoir ce que ça veut dire de vivre dans un monde où il fera 2 degrés de plus. On a du mal à savoir quels sont concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de chacun. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous habitez dans une banlieue, de vivre dans ce monde-là. Qu'est-ce que ça fait quand vous êtes agriculteur, de vivre dans ce monde-là. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est ça qu'il faut créer collectivement. Et le gouvernement seul n'a pas tout dans les mains. C'est un travail collectif qu'on doit faire. C'est pour ça que je trouve ça absolument scandaleux et déplorable quand vous avez des partis politiques qui se concentrent sur agiter le chiffon de la violence et sur ça, au lieu de travailler aussi à construire ce monde de demain, parce que c'est indispensable. Et oui, c'est vrai, on a peu l'habitude d'entendre ce genre de propos, mais je crois qu'on est arrivé à ce moment-là de l'histoire. Vous savez, les siècles, ils mettent souvent 15 ans à mourir.
On arrive aussi à un moment de l'histoire où, en l'occurrence, la première puissance économique mondiale, les États-Unis, se retirent de l'accord de Paris. Une immense puissance comme le Brésil a décidé vraisemblablement d'en sortir et n'accueillera pas la COP25 l'année prochaine dans ce pays. Enfin, ce monde-là est loin et se dessine mal, Brune Poirson, quand on voit justement tout ce qui fait obstacle à cette révolution que vous appelez de vos voeux.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras?
Ah non, mais moi j'en sais rien, c'est vous qui êtes au gouvernement,
c'est pas
moi.
Comment on restaure l'esprit de Paris, l'esprit de la COP21, comment il revient?
En se battant à l'échelle internationale, en continuant à mobiliser nos partenaires. Regardez par exemple la relation qu'ont la France et la Chine. Moi j'étais encore il y a 10 jours avec le ministre d'État François de Rugy en Chine. On a lancé l'année franco-chinoise de l'environnement. Vendredi dernier, j'ai encore eu un dialogue avec l'équivalent du ministre de l'environnement chinois. Il y a des vrais ponts. Nous avons des alliés à l'échelle internationale.
Mais c'est très abstrait, ça, pour l'opinion publique, pour les Français.
Peut-être, mais alors qu'est-ce qu'on fait?
Concrètement, on fait quoi avec
alors,
eux?
Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, regardez, là, qu'on va faire à la COP24? À la COP24, on va décider des règles d'application de l'accord de Paris.
Peut-être.
Et c'est pas...
C'est un accord qui doit être décidé à l'unanimité. En l'occurrence, il n'y a pas les États-Unis, il n'y aura sans doute pas le Brésil.
Sans doute pas le Brésil, il faut l'Australie non plus.
Il y a beaucoup de travail, et je ne vous dis pas que la partie est gagnée, mais c'est indispensable. C'est indispensable pourquoi? Parce que dans le cadre de cet accord de Paris, chaque État doit donner une feuille de route pour limiter ses émissions de CO2. Et donc, en fait, finalement, ça devient le socle des politiques publiques de tous les pays du monde entier. Et donc c'est pour ça que c'est fondamentalement
important. Mais vous allez être
crédible
puisque la France est très loin d'être exemplaire en la matière.
Mais on sait, et on n'a jamais dit qu'on était exemplaire.
Non, mais comment convaincre les autres d'être exemplaires quand on ne l'est pas soi-même?
Mais c'est pour ça qu'on fait tout pour l'être le plus possible. Et ça commence et ça passe aussi par cette taxe sur le carbone. La Chine aussi est en train de le mettre en place. On n'est pas les seuls.
Vous assumez la taxe sur le carbone.
Mais c'est pas que je l'assume pas. C'est
une de fiscalité, d'écologie punitive. Mais comment est-ce que vous pouvez entraîner le citoyen? Parce qu'en fait, le débat, c'est ça. C'est comment chacun d'entre nous peut devenir écologique. Si vous continuez à dire, bon, la taxe carbone, c'est la meilleure, elle est complètement rejetée. Comment vous êtes audible dans cette situation?
C'est là où je rejoins aussi peut-être ce que Christophe Castaner a dit. En amont, il y a tout un travail de construction d'un consensus. Et ça ne peut se faire que si l'ensemble des Français le suivent, effectivement. Ça, c'est indispensable. C'est indispensable parce que la transition écologique demande des politiques publiques qui vont bouleverser et qui bouleversent aussi la vie quotidienne de beaucoup de Français. Et pour ça, vous devez avoir...
Mais vous parlez de consensus alors qu'on est au lendemain d'une journée où on a été aux antipodes de cette idée-là.
Je dis qu'il faut construire le consensus.
Mais
et je dis que c'est ça. Et nous appelons et nous continuons d'appeler au dialogue. Moi,
mais appeler, ça suffit pas, là.
J'ai rencontré déjà avec François de Rugy des Gilets jaunes. Le Premier ministre aussi les a accueillis à Matignon. Il y a une question de représentation et de représentativité aussi du côté des Gilets jaunes. Et puis, au-delà de ça, vous savez, il y a, je crois, une autre question qui est fondamentale, qui est celle de l'accès à l'information. Parfois,
comment
nous partageons, mais parfois, sur des choses qui normalement devraient, entre guillemets, faire consensus, on voit qu'il y a parfois des difficultés à nous comprendre. Moi, je cite par exemple la voiture électrique. La voiture électrique, les Gilets jaunes que nous avons rencontrés nous ont dit, elle pollue plus qu'une voiture diesel. Il y a toute une série de questions. C'est évident. Mais c'est un fait acquis qu'une voiture électrique consomme moins, pollue moins et moins mauvaise pour la planète qu'une voiture diesel.
Sauf si elle roule en Pologne et que l'électricité est principalement fabriquée par des usines à charbon. Là, en l'occurrence, c'est un problème.
Et c'est tout l'objectif, c'est d'accélérer cette transition-là. Et notamment, une des façons de le faire, c'est de mettre un prix sur le carbone. On sait que c'est une des solutions. Mais c'est pour revenir à cette question de l'information, et même au-delà de ça, dans les revendications politiques des Gilets jaunes, il y en a aussi, par exemple, certains nous ont dit vous allez supprimer les pensions de réversion. Absolument pas. Ça n'est pas le cas. Nous menons une réflexion, par exemple, générale sur les retraites, mais comment ça se fait que un post Facebook, il ait autant de valeur, voire plus, que une émission et une discussion comme on a aujourd'hui.
Mais attendez, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de votre côté? C'est-à-dire que quand on entend un certain nombre de responsables, de considérer qu'il n'y a pas des députés qui sont dans les circonscriptions partout, comme vous êtes un parti nouveau, vous l'avez dit tout à l'heure, il ne date pas de la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que vous n'avez pas manqué de relais pour faire de la pédagogie? Est-ce que, avec ça, vous n'êtes pas en train d'apparaître comme une sorte d'élite qui est complètement coupée de la base?
C'est faux. Nos parlementaires étaient... Et ils sont, et depuis le début,
Édouard Philippe les a en irlandais, entre guillemets, mardi dernier au groupe, en considérant qu'il était bien seul et que personne ne relayait sa parole.
Écoutez, j'étais pas là. Moi, ce que je sais, c'est que les parlementaires, et je peux vous le dire, regardez par exemple le député Adrien Morenas dans le Vaucluse, il a eu sa permanence murée, il a eu un long dialogue avec les Gilets jaunes, il continue de le faire, et je sais qu'il y en a beaucoup, énormément qui le font. Ils le font chacun, ils sont sur leur territoire, et nos députés sont à pied d'œuvre. Ils écoutent, ils entendent, ils transmettent.
Et tous les samedis, malgré tout, une nouvelle journée de mobilisation. Et jusqu'à présent, malgré tout, des scènes de violence et un gouvernement qui semble dépassé. Vous ne pouvez pas empêcher ce constat, Brune Poirson.
Nous dépasser par certaines violences, mais c'est certain, mais encore une fois, pas dépassé, non.
Si, on peut dire
non,
dépassé.
C'est une... non,
personne
c'est
ne vous en voudra, dépassé.
Non, je n'ai pas dit
non,
dépassé.
Non, moi je le dis.
Vous le dites, mais moi je ne partage pas cette opinion.
Non.
Pourquoi? Parce que, par exemple...
Vous maîtrisiez la situation hier.
Comme Christophe Castaner l'a dit, la grande difficulté... Là, on rentre dans la technique de stratégie de sécurité. Quand vous avez des individus fondamentalement violents, voire armés, mais qu'il y en a un dans un groupe de gilets jaunes, éparpillés partout, autour et encadrés par... Enfin, dans un groupe de gilets jaunes qui n'est absolument pas violent, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des forces de l'ordre qui risqueraient, par exemple, d'aller pour choper, pardon, mais cet individu profondément violent, de blesser d'autres gilets jaunes autour.
Beaucoup de mal à ce sont des techniques. Ceux qui nous écoutent, hier, le gouvernement maîtrisait la situation dans la capitale.
Mais je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des endroits où les débordements n'ont pas été terribles et énormes. Mais encore une fois, il y avait des choix à faire.
Plus de 60 000 forces de l'ordre étaient sur le terrain hier. Vous ne pouvez pas faire mieux que la quantité qui était présente. Donc ça veut dire que systématiquement, chaque samedi, ça va se reproduire. Donc à un moment donné, il faut quand même trouver une solution.
Ça ne veut pas dire ça. On a fait le choix, par exemple, d'ouvrir les Champs-Élysées et de le filtrer.
C'est une erreur ou pas ?
Mais on se retrouve dans une situation aussi. Et il faut où nous avons des gens qui sont armés, qui sont éparpillés parmi d'autres qui ne le sont pas. Nous ne voulons pas de morts ou de blessés du côté des gilets jaunes, et nous n'en voulons pas non plus du côté des forces de l'ordre. Et donc oui, tout cet équilibre là. Il est très difficile, mais vous avez des gens qui sont des jusque-boutistes.
Pour répondre à cette colère, il faut des mesures très concrètes. Et c'est le président de la République qui l'a lui-même souligné, il y a un chèque énergie, les Français ne le connaissent pas. Et en fait, l'un des problèmes du chèque énergie, c'est que visiblement l'État est dans l'incapacité de le verser en janvier, alors que c'est au moment où les Français en auraient le plus besoin. Alors, est-ce que vous êtes prêt à faire votre part de mea culpa en disant oui, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans tout ce circuit de l'économie écologique ?
Le président de la République lui-même l'a dit. Il y a des mesures d'accompagnement.
Mais qu'est-ce que vous allez faire?
Il y a des mesures d'accompagnement qui sont très difficiles à dérouler et qui n'arrivent pas suffisamment rapidement. Mais je crois qu'il y a un problème à délivrer, à faire appliquer. Et ça, je crois que c'est un problème qui est plus large, qui va au-delà de la question écologique, qui est plus global même quand vous regardez dans le fonctionnement de l'État. Pourquoi aussi ? Parce qu'on vit dans un monde, et c'est aussi une des difficultés, on vit dans un monde qui a été bouleversé par les nouvelles technologies, parfois pour le mieux, puisque ça c'est aussi beaucoup plus d'efficacité. On le voit par exemple dans les services que peuvent fournir certaines entreprises privées, dans le rapport qu'ont les Français aux nouvelles technologies. Et c'est vrai qu'on est parfois face à des administrations qu'il faut réformer beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement pour qu'elles prennent elles aussi et qu'elles intègrent ces nouvelles technologies pour mieux répondre et mettre en place ces mesures d'accompagnement.
Ce que vous êtes en train de raconter, c'est pas très rassurant, parce qu'on voit des forces de l'ordre qui sont un peu débordées hier, et on voit un État qui a du mal à faire appliquer les décisions qu'il prend. Qu'est-ce que ça veut dire ? On est dans un pays complètement bloqué. Qu'est-ce qui se passe ?
Nous ne sommes pas dans un pays qui est bloqué. Il faut continuer à... C'est pour ça qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a de la... Je crois qu'il faut aussi rentrer dans, beaucoup plus dans le sur-mesure. C'est-à-dire qu'il faut aller dans la réalité de chaque territoire. Ça fait partie de ce qu'a proposé le président de la République, de ce qu'il a appelé de ses voeux. On l'appelle concertation parce que peut-être on n'a pas de meilleur mot, mais il faut aller répondre et il faut faire du sur-mesure. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, si vous êtes une mère de famille célibataire dans le Vaucluse ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Quelle est la mesure d'accompagnement ? Comment l'appliquer le plus rapidement possible ? Comparé à si vous habitez dans la banlieue d'une grande ville et que vous faites 70 km par jour, il faut faire beaucoup plus de sur-mesure. Mais ça se fera qu'en allant au plus près du terrain, et c'est tout l'objectif de la concertation qui est menée dans les trois mois à venir. C'est à
qui est annoncé, mais qui n'est pas encore installé, parce que vous avez du mal à engager le dialogue, justement.
On va le faire, mais nous ne demandons que ça. Nous en appelons aux gilets jaunes à venir et à continuer à dialoguer avec nous, à se mettre d'accord pour avoir aussi des représentants.
Commencer à dialoguer.
On a déjà commencé à établir le dialogue. Je le rappelle, nous, on a passé presque 2 heures avec François Drugy et Emmanuel Wargon. On a passé près de 2 heures avec des gilets jaunes au ministère de la Transition écologique et solidaire. On a noté toutes leurs revendications. Et je vous ai dit, certaines sont justes. Par exemple, plus de transparence dans la façon dont est utilisé le budget de l'État. Et c'est ce qu'on s'attache à faire.
L'émission se termine. Merci infiniment, Brune Poirson, d'avoir été notre invitée. Quand est-ce que vous partez
Brune, pas sûr. Je pars tout à l'heure.
Bon voyage donc pour la COP24. Merci à toutes les trois. Merci à Alexandre Gilardi, à toute l'équipe technique de Questions Politiques. Et je vous dis à la semaine prochaine.